Qu'il l'eût cru, avec Des idées plein la terre. Une émission qui parle de terre crue, mais pas que.
Qui l'eût cru, c'est notre rendez-vous mensuel avec l'association Des idées plein la terre. Cette émission aujourd'hui sera autour de l'expertise d'Adrien Arasgaudry, qui est le fameux architecte dont on parle régulièrement avec Mélanie dans cette émission. Cet architecte donc qui vient nous expliquer son travail de recherche sur le patrimoine en terre crue en Champagne. Bonjour Adrien.
Bonjour James.
Merci d'être avec nous. Si tu veux bien nous parler de ton parcours et surtout comment tu es arrivé dans cette association Des idées plein la terre.
Ok, et bien mon parcours en quelques mots, j'ai fait des études d'architecture, j'ai travaillé un petit peu en agence d'architecture avant de quitter la région parisienne où j'exerçais pour aller vers la Bretagne pour me former à la rénovation du patrimoine bâti ancien avec la question des matériaux bio et géosourcés, donc des ressources locales et des savoir-faire. Et ensuite je me suis formé à la maçonnerie en terre crue quand j'ai pris conscience qu'il y avait un énorme patrimoine de bâtiments en terre crue en France. Et voilà. Et un jour, sur mon parcours personnel, je suis retourné en Champagne. J'ai fait un retour à Reims pour le clin d'œil à Didier Ribon. Et je me suis aperçu en fait qu'il y avait tout un patrimoine dont on ne parlait pas ici, pas ou peu en tout cas. Et voilà. Et puis par des connaissances personnelles, en fait, j'ai fait la rencontre de Sandrine et Adeline qui avaient cofondé l'association Des idées plein la terre. On avait des centres d'intérêt en commun évidents. Et donc, c'est comme ça que l'aventure a commencé.
Donc c'est ce retour en 2020 donc, qui est un peu le démarrage de tout. Et surtout, comment toi tu t'es lancé au groupe d'études sur les géomatériaux et environnement anthropisé, ce qu'on appelle plus communément le GGNA?
Eh ben, c'était l'opportunité de mener un travail de recherche, là en l'occurrence une thèse, un travail doctoral avec ce laboratoire-là sur le sujet donc, de la construction en terre et donc avec ce lien entre la ressource qui vient du sol et la construction de l'habitat.
Alors, on en parle assez régulièrement dans cette émission. Reims est en fait riche de terre crue. Il y a un patrimoine qui le prouve d'ailleurs, même dans l'histoire et dans les livres, on peut retrouver tout ça. C'est ce que tu m'expliquais au moment de préparer cette émission.
Oui, en tout cas, on le retrouve. Alors, dans les livres, il faut aller fouiller un petit peu, c'est vrai, parce que c'est pas ce qui ressort de prime abord. Moi, une des premières fois où j'en ai entendu parler, hormis justement dans un bouquin qui fait partie plutôt du milieu de la recherche sur la terre crue, c'était via le journal L'Union, journal local, parce que presque à peu près tous les ans, on voit un article qui passe sur un bâtiment en carreau de terre qui s'est effondré. Et donc là, ça met un peu la puce à l'oreille, puisque c'est les seules bribes qu'on trouve un peu. Alors quand on fouille, forcément, on trouve un peu. Mais effectivement, en fait, ça m'a permis de découvrir au fil de la recherche que non seulement Reims, mais aussi une grande partie du territoire de la Champagne a été massivement construit en briques de terre, en carreau de terre.
En carreau de terre, ouais. Et c'est quelque chose qui a perduré pas mal jusqu'à quand?
Eh bien, alors, c'est toujours difficile de donner une date précise, mais pour donner une idée, on va fixer ça à l'entre-deux-guerres, en fait. À l'entre-deux-guerres, il y a encore certainement des bâtiments qui se font. On en retrouve quelques traces, mais ça a tendance apparemment à bien s'amoindrir. Et on a fait un constat en zone, sur la zone de front de la Marne, où la reconstruction s'est pas faite avec ce matériau-là, alors qu'il il représentait presque 80% du patrimoine dans certains villages. Et à Reims, on a eu quelques informations sur le fait qu'il y a eu quelques reconstructions en briques de terre crue, mais il y a eu un manque, et puis il fallait reconstruire vite, et apparemment il y avait en quelque sorte une pénurie aussi sur cette matière. Donc on a reconstruit à l'entre-deux-guerres, mais beaucoup moins, et ensuite...
C'est la pénurie, selon toi, qui a vraiment causé ce déclin de l'utilisation du carreau de terre?
Alors, c'est toujours difficile d'avoir la réponse exacte, et puis je pense qu'il y a différentes choses qui ont joué. En tout cas, la pénurie, quand je dis pénurie, c'est que c'est un matériau qui demande du temps de fabrication, un peu de séchage. Et ensuite, il y a certainement une espèce d'imaginaire, c'est les matériaux industriels qui commencent à se développer, qui font leur apparition, avec, je pense, un modèle de société autour de la question de la rigidité, où en tout cas, on recherche des performances mécaniques élevées, on est capable d'en produire, on construit plus vite, et je pense qu'en ça, le carreau de terre répondait moins à ces valeurs-là. Et puis, certainement, dans l'imaginaire, un matériau qui appartient plutôt à la pauvreté, et peut-être dont on a envie de se détacher, qui représente le passé d'une certaine manière.
Alors au sein de l'association, tu apportes ton expertise et surtout, j'imagine, le fruit de tes recherches pour le partager après donc, à tous ses adhérents en fait.
Oui, ben en tout cas, au sein de l'association, c'est la terre crue fait partie des domaines qu'on travaille un petit peu. Et donc, il y a toujours une envie de pouvoir échanger autour de ça. Donc, c'est vrai que le fait de faire ce travail de doctorat sur 3 ans et à ne faire que ça, ça apporte quand même pas mal de billes, pas mal de compréhension, de redécouverte. Et du coup, il y a un plaisir à échanger entre nous.
Qu'est-ce que tu fais au quotidien, donc, si on doit décrire un petit peu ta journée type?
Alors ça dépend, du coup il y a différentes phases, parce qu'aujourd'hui je suis dans la rédaction du manuscrit, donc là ça touche à sa fin, donc je fais un peu moins de recherche à proprement parler, mais il y a eu, on va dire dans les grandes phases, une première partie terrain, ça consistait en fait à aller tout simplement traverser le territoire pour voir où est-ce qu'on pouvait le percevoir et définir un petit peu son implantation géographique. Donc ça c'était toute une première partie. Il y a eu du travail d'archives aussi pour essayer de comprendre justement quand est-ce qu'on a été de l'utiliser, puis quelle était son importance. On pourra peut-être revenir dessus, mais il y a quelques chiffres quand même qui montrent qu'il était quand même énormément présent. Et ensuite, donc ça c'était pour comprendre plus la géographie, et puis un travail de laboratoire. On a été prélever des échantillons sur des bâtiments pour essayer de comprendre quel type de terre était utilisé, pour nous donner un peu une idée de la ressource qui pourrait être utilisée aujourd'hui si on voulait y retourner. Et puis il y a eu un travail aussi qui a été fait avec des partenariats, avec l'école de design de Reims, les SAD de Reims, le PNR de la Montagne de Reims, l'association des idées plein la terre, des musées aussi. Donc voilà, donc il y a eu aussi tout ce travail-là. Donc c'était une espèce de travail pluridisciplinaire, on va dire.
Est-ce que tu peux nous dire s'il reste encore beaucoup de constructions à Reims en carreaux de terre ?
Alors, c'est difficile d'avoir une idée précise, mais ce qui est sûr, c'est que oui, il y en a une grande partie, puisque donc, tous les ans, à peu près, en tout cas sur le secteur de Reims, on a un article plus ou moins qui sort et qui nous annonce qu'un carreau de terre s'est effondré. Donc, on a cette preuve-là, et puis on en perçoit, en fait, si on tend le regard, on voit derrière quelques enduits, on en aperçoit quelques-uns.
Et c'est puis, ça, c'est que c'est caché aussi.
C'est caché, oui, parce que le matériau était couvert d'un enduit. Alors, c'est moins vrai en général en milieu rural, mais en milieu urbain, on enduit souvent, donc c'est difficile de savoir quel est le matériau qui a été derrière. Et puis, le carreau de terre est parfois utilisé sur les 4 murs de la construction, et parfois, il est utilisé sur un seul pan de mur. Donc voilà, donc, des fois, on aperçoit un matériau, on pense que c'est pas du carreau de terre, et en fait, c'en est... Il y en a qui est caché quelque part dans le bâtiment. En tout cas, ce qui permet de dire qu'il y en a encore beaucoup, c'est simplement le fait que courant 19e siècle, Reims doit son expansion, quand la ville sort de ses remparts, à l'utilisation massive du carreau de terre pour tous les nouveaux quartiers.
Donc j'imagine qu'il faut regarder vers le centre-ville si on veut trouver encore ce type de bâtiment. Le grand centre-ville.
Dans l'hypercentre, on va dire, on en trouve quelques-uns, mais un peu moins. Et après, tout ce qui est quartier Clermarais, Lens, le long du canal, il y en a Saint-Rémy.
D'ailleurs, dans les bâtiments qui étaient construits dans le côté un petit peu industriel aussi, le long du canal, il y avait pas mal de carreaux de terre, j'imagine.
Oui, tout à fait. Et ça a servi à construire à la fois les bâtiments, les annexes des bâtiments, mais aussi quelques bâtiments industriels dont on a retrouvé la trace, qui étaient construits avec des carreaux de terre et des murs de clôture aussi. Enfin, il y en avait pour tout type de... Quand on construisait, le carreau de terre a servi de ressource.
Si tu veux bien nous rappeler le pourquoi ça serait bien de retourner vers le carreau de terre.
Alors pourquoi ça serait bien? En tout cas, on imagine nous que ça serait bien. Il y a différents constats, de manière assez pragmatique, en tout cas dans le monde de la construction. On entend parler de la pollution, alors dans tous les milieux, mais dans le monde de la construction aussi, de la consommation des ressources, de l'énergie et de la pollution également. Donc déjà, il y a ce premier constat, il y a la terre, en fait, c'est un matériau qui se trouve sous nos pieds. Donc zéro transport, c'est de la terre crue. Donc il n'y a pas de cuisson, elle sèche à l'air libre, pas d'énergie, et elle est réemployable à l'infini. Donc ça veut dire que si un bâtiment s'effondre ou qu'on le démolit, on peut reprendre la terre et reconstruire avec. Ce qui offre quand même pas mal d'avantages par rapport à beaucoup de matériaux qui ont demandé une énergie énorme. Et en plus de ça, on va pouvoir aussi apporter la question du confort. On reviendra peut-être dessus après, mais la terre crue, elle est capable aussi de réguler l'humidité dans la maison. Ouais. Donc... quand on commence à creuser un petit peu comme ça, ça commence à faire déjà pas mal de choses positives. Et puis... Peut-être pour étendre un petit peu aussi, pour sortir d'une approche purement constructive, en fait, pour moi, l'avantage qu'il a, il a l'avantage de reposer des questions sur nos modes de vie, sur la société dans laquelle on vit. Et je dirais que ce matériau permet potentiellement de recréer du commun, de recréer du lien avec le passé. Donc au niveau sociétal, c'est de recréer aussi une attache sur le temps long, dans une société qui va peut-être beaucoup plus vite et avec laquelle on a tendance à oublier les choses du passé. C'est se reconnecter avec des savoir-faire et puis se reprendre le temps aussi. C'est un matériau qui peut-être nous oblige à ralentir un petit peu, ce qui est potentiellement pas mal.
Oui, j'imagine qu'il y a une technique pour créer le carreau de terre, peut-être une certaine concentration de terre, une façon de la presser, comment ça se fait correctement ?
Mais je crois qu'il y a une chose qui est finalement assez simple. Ça ne veut pas dire que les savoir-faire étaient pauvres, mais c'est quelque chose qui allait avec du bon sens et qui a tenu. C'était, on ramassait. Alors, ils prenaient la terre. Potentiellement, les maçons qui travaillaient dans un secteur connaissaient, enfin les maçons d'ailleurs et les paysans aussi, puisque c'était un matériau qui a en fait énormément été aussi fabriqué par les paysans dans leur temps libre ou à certaines saisons. Et donc ils avaient connaissance, parce qu'ils vivaient dans un endroit, ils avaient une très forte connaissance du type de terre qu'ils avaient sous leurs pieds. Ils a travaillé en labourant ou autre. Et il suffit de ramasser la terre. Ils avaient un moule qui était en bois ou en métal. On met la terre dans le moule, on l'a mélangée préalablement avec de l'eau, et puis on démoule et on laisse sécher. Il y a une lithogravure qui est date du milieu 19e d'ailleurs, qui est 1850 par Maugendre, qu'on retrouve à la bibliothèque Carnegie de Reims. C'est l'arrivée du chemin de fer, donc c'est la scène qu'on voit au milieu. Et au premier plan, c'est une scène de la vie quotidienne, et c'est la fabrication de carreaux de terre. Donc on voit très bien les carreaux de terre par terre qui sont fabriqués. Ça, c'est incroyable de retrouver ça.
Alors, quand tu l'expliques, c'est très très simple, mais il n'y a vraiment pas besoin de nettoyer la terre. Enfin voilà, on la prend directement comme ça et on la moule.
Bah voilà, ouais, peut-être que c'est un peu trop simplificateur, mais en fait, c'est vraiment ça. Effectivement, on va voir qu'il y a certains types de terres qui ont été utilisées. On pourrait dire qu'il y a une limite à l'utilisation de la terre, mais grosso modo, si, comme la terre n'avait pas voyagé, à l'époque, on construisait avec vraiment ce qui était à 1 km. Si on voit une forte concentration de bâtiments en terre, bah, c'est qu'ils l'ont creusé. Et ensuite, le mélange s'est fait, comme je l'expliquais juste avant, de manière assez simple. C'est ça qui est fabuleux quand même aussi, c'est de se dire, c'est une question de réappropriation aussi qu'on peut avoir, où tout le monde peut le faire.
J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on attend alors ?
Ben, nous, c'est ce qu'on fait en tout cas avec l'association. Et puis, je crois qu'il y a aussi le fait d'intervenir en Champagne. Et moi, comme je vous ai dit, dans mon parcours, j'étais en Bretagne et puis je suis assez investi dans les collectifs nationaux. Et en fait, c'est de voir aussi ce qui se passe sur d'autres territoires. Parce que là, on aurait l'impression, en fait, ici, de redécouvrir. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil aussi au mouvement qu'il y a eu dans les années 80. Parce qu'il faut savoir que dans le territoire, avec le PNR de la Montagne de Reims, l'entreprise Bâtiments Associés avec Pierre Possémé à l'époque et puis Gérard Batala, il y a eu un renouveau de la construction en terre où ils ont fait des opérations de logement en briques de terre crue et puis ça a duré quelques années, malheureusement pour plein de raisons ça a redisparu. Donc on n'en a plus sur le territoire aujourd'hui, alors que ça a été pionnier à un moment donné dans le renouveau de la terre. Mais aujourd'hui, en France, il y a des territoires où ils construisent des écoles en terre, où il y a des... Moi, quand j'étais du côté de Rennes, il y avait peut-être qu'une cinquantaine de maçons autour qui faisaient que ça. Tous les jours, ils travaillaient la terre sur le patrimoine.
Donc il faut former encore les professionnels, c'est ça l'idée principale ?
Complètement, oui, ça c'est un savoir qui, traditionnellement en plus, comme beaucoup de savoirs, était de la transmission orale, c'est ce qu'on appelle du patrimoine immatériel. En fait, c'est ça aussi qui est important derrière cette notion, c'est qu'on regarde beaucoup les bâtiments avec ce patrimoine matériel et qu'on a l'habitude de voir. Et en fait, il faut savoir qu'il y a aussi le patrimoine immatériel qui a permis d'avoir ces constructions. Et aujourd'hui, en fait, ça passe par quelque chose de plus institutionnel, par les centres de formation et qui a disparu et qu'on essaye petit à petit de réimplanter, quoi.
Tu l'as très bien expliqué. Donc, il y aurait des retombées environnementales, sociétales et puis, bien sûr, économiques. Évidemment, c'est le nerf de la guerre. Donc, ça serait carrément du bon sens d'y aller très vite, là.
Mais en tout cas, ça se fait petit à petit. Et donc, il faut que, là, sur le territoire, il faut qu'on... Enfin, en tout cas, il faut qu'on y aille, il faut qu'on reprenne conscience et qu'on discute comment on le fait aussi. Puis, il y a toujours plein de manières de le faire. Et là, chacun va avoir aussi son idée derrière.
Alors, si on veut en savoir plus, bien sûr, c'est l'association des idées plein la terre qu'il faut contacter. C'est rue Pierre Maître. Et puis, il y a une page Facebook sur laquelle on peut prendre contact avec vous. Si tu veux rajouter quelque chose pour le mot de la fin...
Ok, bah alors peut-être deux petites choses, c'est que déjà effectivement avec l'association, en plus des activités qu'on mène, si vous avez envie de découvrir et de partager avec nous, parce que pour nous l'idée c'est vraiment de faire ensemble, je vais pouvoir aussi dans le cadre de cet asso présenter mes travaux de recherche, parce que ça nous tient à cœur de pouvoir transmettre tout ça, cette histoire locale et toutes les possibilités que ça offre. Et une deuxième chose, c'est vraiment ça, c'est que pouvoir toucher cette matière, pour moi, c'est rouvrir un imaginaire, et il y a quelque chose de très concret dans un monde où des fois on a l'impression d'être un peu en déconnexion. On se dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire ? Et ben là, il y a des choses qu'on peut faire avec ses mains, et on a une sorte de retour en enfance aussi, beaucoup de joie, quoi.
Merci beaucoup, Adrien. C'est très passionnant. On pourrait passer beaucoup, beaucoup de temps avec toi à la radio. Donc j'invite vraiment tous les auditeurs qui nous écoutent à prendre contact avec toi au travers de l'association des idées plein la terre. Un grand merci, Adrien.
Et ben merci à toi, James.
À très bientôt.